De la semaine, et oui, c'est mercredi, c'est le jour des enfants, mais c'est aussi le jour des salles obscures. À tout de suite.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J. Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous ce mercredi 15 mai 2024. Nous sommes ensemble en direct et jusqu'à 9h. 222e jour de guerre contre le Hamas et toujours 132 otages dans la bande de Gaza.
Le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel Bokertov, et nous commençons ce journal par l'annonce il y a à peine une heure de la mort d'un soldat au combat dans la bande de Gaza. On ne vous entend pas, Daniel Haïk. Est-ce que vous m'entendez ? Toujours quelques difficultés avec les studios Qualita. Ce matin, effectivement, on apprenait la mort de ce soldat, le sergent Ira Yair Gispan, 19 ans, de Petar Tikva. On va tenter de retrouver Daniel Haïk. On souhaitait aussi parler avec lui de la tension qui est toujours très forte, notamment dans le nord d'Israël, après la mort d'un civil lors d'affrontements avec le Hezbollah. Est-ce qu'on va retrouver Daniel Haïk ? Pour l'instant, non. En tout cas, on va aussi faire le point de cette journée de l'indépendance. Hier, Yom Ha'atzmaout, 76 ans de l'État d'Israël. Eva Soto, on parle effectivement de la mort de ce soldat tombé au combat à Gaza. On connaît son identité. Hein.
Oui, il s'agit donc de Ira Yair Gispan, qui est tombé hier au combat dans le sud de la bande de Gaza. Ça s'est passé hier, mais son nom n'a été autorisé à la publication que ce matin. Il a 19 ans, il était combattant dans le bataillon de blindés 75. Il est mort lors de combats dans Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Par ailleurs, hier, ce sont 13 autres soldats israéliens qui ont été plus ou moins sérieusement blessés dans des combats menés par les forces de Tsahal, toujours dans la bande de Gaza.
La tension demeure très vive dans le nord d'Israël, on disait, après la mort d'un civil lors d'affrontements avec le Hezbollah, un civil qui a été tué d'un missile anti-tank tiré à partir du sud Liban en direction du kibboutz d'Adamit dans le nord d'Israël. 5 soldats israéliens ont été blessés par ce même tir. Durant la nuit, Tsahal a bombardé des positions du Hezbollah et ce matin, le mouvement terroriste, le groupe terroriste a confirmé que lors de ces tirs à partir d'un avion de chasse israélien, un officier supérieur du Hezbollah, Hussein Maki, et son garde du corps avaient été éliminés alors qu'ils circulaient à bord d'un véhicule à tir au sud Liban. Le porte-parole de Tsahal a indiqué par ailleurs que l'armée avait intercepté 2 drones offensifs qui venaient de l'est du pays, mais qui n'ont pas franchi la frontière. Les milices pro-iraniennes ont endossé la responsabilité de ces tirs de drones. Eva Soto, on parle également de l'administration Biden. Ce matin, l'administration qui soutient Israël.
Et oui, l'administration Biden qui a précisé hier qu'Israël ne commettait pas de génocide contre les Palestiniens à Gaza. C'est ce qu'a déclaré à la presse le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Il a expliqué pourquoi les États-Unis n'utilisent cette expression de génocide que sur des normes internationalement reconnues. Donc, pour que le génocide soit reconnu, il faut que l'intentionnalité soit prouvée.
Et on parle des États-Unis, l'administration américaine qui a fait connaître son intention d'acheminer vers Israël du matériel militaire, une partie de l'aide militaire américaine habituelle fournie à l'État hébreu. Selon le Washington Post et le Wall Street Journal, cet envoi inclut des obus pour des blindés de roquettes, des véhicules tactiques, le tout pour un montant $1 milliard. Le communiqué précise qu'il n'y a pas d'embargo d'armes américaines à Israël, mais seulement d'une menace de gel de l'acheminement de centaines de bombes lourdes si Israël devait entrer plus massivement peut-être dans Rafah. On rappelle que Washington est toujours opposé à cette opération à Rafah. Et justement, il semble que les Américains et les Israéliens aient décidé de reprendre des discussions à propos des dossiers qui provoquent actuellement une tension entre les deux pays. Selon certaines sources, israéliens et américains ont convenu que l'opération israélienne dans la ville de Rafah ne sera pas élargie avant la tenue de ces discussions. Des discussions qui porteraient entre autres sur l'après-Gaza. Les Américains exigent de Benjamin Netanyahou qu'il présente son plan pour l'après-guerre dans la bande de Gaza. Sans plan et sans perspective, les Américains continueront donc à s'opposer fermement à cette opération israélienne. Autre dossier qui doit être débattu entre Israéliens et Américains, l'aide humanitaire. Côté américain, on est assez mécontent de la réduction du volume de cette aide au cours des derniers jours. Une réduction qui est due d'abord à l'occupation par Tsahal du poste de Rafah, qui a conduit les Égyptiens à cesser de transférer des camions via ce poste, et ensuite les efforts entrepris par des habitants juifs de Judée et de Samarie pour empêcher l'acheminement de denrées alimentaires, en particulier en provenance de Hebron et à destination de Gaza. Nous n'avons pas pu retrouver Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. On tentera de rétablir la connexion plus tard à partir de 7h30 sur Radio J. Et avant de parler cinéma, un point météo. Ce mercredi, le temps est instable sur les trois quarts du pays, avec des averses parfois orageuses entre Paris et les Hauts-de-France. Le temps est plus calme, il fait frais. En tout cas, 20 degrés à Paris, 21 à Marseille, 19 à Lyon et puis en Israël. Toujours de belles températures, 22 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv, 33 à Eilat.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Festival de Cannes s'est ouvert et oui, 77e édition du Festival de Cannes et c'est l'occasion ce matin de parler cinéma, mercredi cinéma, votre rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis quand on peut en tout cas, les meilleures sorties ciné de la semaine et pour en parler, il est avec nous en studio en direct, Roman Toiti, bonjour Roman.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Alors on va commencer par le film le plus attendu de la semaine, le deuxième acte de Quentin Dupieux avec Vincent Lindon, Louis Garrel et Léa Seydoux, une nouvelle comédie Roman, on peut le dire complètement loufoque. Hein.
Oui, un film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes hier soir et qui raconte l'histoire de Florence. Florence veut présenter à son père David, l'homme dont elle est follement amoureuse, ce qui n'est malheureusement pour elle pas du tout réciproque. David présente alors Florence à son meilleur ami. Vous l'aurez compris, ce film semble avoir été spécialement tourné comme un sketch. Écoutez la bande-annonce.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop.
Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille.
N'importe quoi, non mais écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons.
Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout.
Le deuxième acte sorti dans les salles obscures ce mercredi. Alors, autre film français Roman à l'affiche, Rokia de Saïd Belkhitibia avec Golshifteh Farahani, Amin Zarioui et Jérémy Ferrari, un thriller assez haletant. Hein.
Oui, l'histoire de Nour, une femme accusée de sorcellerie qui vit de contrebande d'animaux exotiques pour des guérisseurs. Pourchassée par les habitants de son quartier puis séparée de son fils, elle se lance alors dans une course effrénée pour le sauver. Une traque qui ne fait que commencer. Comme la carrière du réalisateur qui signe avec ce film son premier long métrage.
Oui, t'es vivant. C'est une grenouille très dangereuse, faut pas la toucher, ça soigne tout.
Nour !
Qu'est-ce que ça ?
Vous m'aidez ? Kevin, ça va pas trop en ce moment. Tu fais des crises graves ?
J'ai une solution peut-être. T'as un pot de sous ?
Ils ont des vrais problèmes ces gens-là. Nous, on va vraiment les soigner.
Il manque 500 balles sur la pension. Là, on va appeler le juge.
Tu vas appeler le juge, toi ?
Je vais lui dire, Camille, tu l'embarques dans tes trucs de marabout, de sorcellerie, de je sais pas quoi, là. Puis ton fils, tu le reverras quand il aura 18 ans.
Rokia, vous l'entendiez, la bande-annonce. Alors, autre premier long-métrage, d'ailleurs signé Michael Dichter, Les Trois Fantastiques, un drame mené par Emmanuel Berco et Raphaël Quenard, ça se prononce comme ça, c'est vrai. Roman est un passionné de cinéma. Étoile montante, effectivement, du cinéma français, Raphaël, un défi pour ce comédien habituellement cantonné aux comédies.
Et oui, pour son premier film, Michael Dichter a choisi le teen movie que l'on pourrait traduire par film pour adolescents. Très rare au cinéma ces dernières années, ce genre fait son retour en force après le succès de films comme Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand ou Bis Repetita d'Émilie Noblet. Une ode à l'amitié qui nous mène à la rencontre de Max, Vivian et Tom, trois adolescents inséparables qui vont peu à peu entraîner les trois fantastiques dans une chute qui paraît inéluctable.
C'est qui les trois fantastiques ?
Bah, c'est nous trois.
J'ai pas envie que tu retournes en prison.
T'inquiète, c'est fini. Tu prends le sac, tu me le ramènes, c'est tout.
Et tu comptes en faire quoi ?
Hier soir, t'es à Lyon.
Couvre-toi, putain !
Tu veux finir comme ton frère, c'est ça ?
Si je te trouve de l'argent, ils vont te laisser tranquille ?
Il faut que tu me fasses confiance.
C'est qui le grand frère de qui ?
Ah !
plus fort que la famille, frère.
Les trois fantastiques ce matin, cinéma, effectivement, troisième film à voir dans les salles obscures. Je vais y arriver ce matin. Merci beaucoup, Romain Touati, pour cette première chronique sur Radio J. On peut l'applaudir, Eva. C'était son premier live, son premier direct.
Bravo.
Romain, qu'on retrouvera évidemment très bientôt sur Radio J. Tout de suite, la chronique de Daniel Saad.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et ce matin, nous sommes en direct, comme tous les mercredis, avec l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada. Bonjour Daniel.
Boker Tov, Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Israël vient de célébrer son 76e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, dans des circonstances, c'est vrai, assez particulières hein, cette année, Daniel. Quels sont vos sentiments, justement, au lendemain de ce Yom Ha'atzmaout?
Eh bien, ce sont des sentiments très variés. D'abord et avant tout, bien sûr, celui de la conviction immense et profonde de la justesse de la cause sioniste, celle qui a conduit justement à l'avènement de notre État il y a 76 ans. Je crois que cette année, plus encore que toutes les autres années, nous comprenons le sens réel de la création de l'État d'Israël, État-nation du peuple juif. À l'heure où les actes antisémites se multiplient à une vitesse exponentielle, partout sur la surface du globe, où les juifs sont visés parce que juifs, dans toutes les sphères les plus élevées et censées être les plus protégées, où les accusations les plus farfelues, mais aussi les plus infamantes, sont proférées à l'encontre d'Israël, exactement comme elle était hier à l'encontre des juifs, je crois sincèrement avoir ressenti hier combien il est bon qu'Israël existe. Que se passerait-il si nous n'avions pas d'État pour nous représenter, pour y trouver refuge, pour nous permettre de nous exprimer en tant que nation libre et indépendante, alors qu'à nouveau ressurgit de toutes ses forces la bête immonde de la haine et du mépris. Certes, cette journée de l'indépendance est profondément marquée par les circonstances tragiques de la guerre que nous sommes contraints de continuer de livrer pour nous défendre, mettre à bas le Hamas, le Hezbollah, ramener nos otages et permettre aux centaines de milliers d'Israéliens évacués de pouvoir retourner dans leur foyer.
Alors vous parliez des accusations infamantes hein, lancées contre Israël. Daniel, j'imagine que vous faites référence évidemment à celles qui incriminent Israël de commettre un génocide à Gaza.
Oui, vous avez raison Ilana, cette accusation est au cœur du dispositif et de la stratégie de mensonges et de calomnies de nos ennemis, relayée par tous ceux qui ont pris le parti de les défendre et de les soutenir sans aucun égard pour la vérité et pour la matérialité des faits. Les déclarations et les preuves fournies par Israël ne les intéressent pas. Disons qu'à la limite, on pourrait le comprendre, même s'il est difficile d'admettre préférer donner du crédit à une organisation terroriste reconnue comme telle plutôt qu'à une démocratie. Mais même les récents développements intervenus, émanant d'autorités indépendantes, prouvant que cette accusation de génocide est totalement infondée, ne change rien à la situation. La présidente de la Cour de justice internationale de la Haye, qui a statué sur la plainte de l'Afrique du Sud, s'est exprimée la semaine dernière dans une émission phare de la BBC pour, je la cite, « corriger ce qui a été rapporté dans les médias » et insister sur le fait que la Cour n'avait absolument pas décidé que l'allégation de génocide était plausible. Ce sont ses propres termes. Quelqu'un s'est-il ému? Le conseiller à la sécurité nationale américaine, Jake Sullivan, a déclaré avant-hier, après que le porte-parole du département américain le fait de manière régulière, pratiquement chaque semaine dans ses points de presse, il a dit, je le cite à nouveau, « Nous ne pensons pas que ce qui se passe à Gaza soit un génocide. Nous rejetons fermement cette affirmation. » Est-ce que quelqu'un a repris cette affirmation? Pourtant, une affirmation qui provient d'un des hommes les mieux renseignés au monde sur ce qui se passe sur la surface du globe. L'ONU, oui, l'ONU elle-même, sans doute à contre-cœur, par le biais de deux de ses agences et de ses organes les plus favorables aux Palestiniens. Je parle du Bureau de coordination des affaires humanitaires, ce qu'on appelle OCHA, et l'UNICEF, qui n'a jamais manqué une occasion d'accabler Israël ou tous ceux qui le soutiennent. Ils ont publié tous les deux des rectificatifs sur le nombre des victimes à Gaza. Certaines statistiques sont divisées par deux et même par trois. Et surtout, ils confirment que l'immense majorité des victimes de Gaza ne sont ni des femmes ni des enfants. Ce qui revient à confirmer que nous traquons et nous éliminons essentiellement des terroristes du Hamas. Y a-t-il un média, un universitaire, un intellectuel, une personnalité politique à travers le monde, qui nous avait accusés et qui a demandé à s'excuser pour nous avoir accusés en vain de cette infamie. Évidemment non, car incriminer, diffamer, blâmer, accuser les Juifs et leur État de tous les maux et de toutes les abominations demeure malheureusement la règle commune. Rien n'a changé, mais pas tout à fait, car aujourd'hui, nous célébrons les 76 ans de notre indépendance, comme un peuple libre sur la terre de ses ancêtres, la terre de Sion et de Jérusalem.
Merci beaucoup Daniel Saada, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, je vous dis à la semaine prochaine. Radio,
Radio. Le 6-9, Ilana Ferradian.
7h15, l'essentiel de l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la mort d'un soldat de Tsahal annoncé ce matin, le sergent Ira Yair Gispan, 19 ans. Il est tombé au combat hier dans le sud de la bande de Gaza. Et 14 soldats de Tsahal ont par ailleurs été blessés, dont 4 grièvement dans des combats. La conséquence d'une fusillade avec des terroristes dans le nord de la bande de Gaza pour 8 d'entre eux. Par ailleurs, un soldat de la brigade Givati a été grièvement blessé et 5 autres plus légèrement dans l'explosion d'un engin à Rafah dans le sud. Selon Tsahal, il y a aussi des otages dans la région de Rafah. C'est ce qu'a affirmé hier le porte-parole de l'armée israélienne lors de sa visite aux troupes en opération dans l'est de Rafah. Selon le contre-amiral Daniel Agari, les opérations à Rafah, Jabalia et Zeytoun ont déjà permis d'éliminer plus de 100 terroristes. L'administration Biden ne croit pas qu'Israël commette un génocide contre les Palestiniens à Gaza. C'est ce qu'a déclaré hier le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan. Il a affirmé que les États-Unis n'utilisaient cette expression de génocide que sur des normes internationalement reconnues, donc avec la preuve d'une intentionnalité. En France, le mur des justes du mémorial de la Shoah vandalisé à Paris, des mains rouges y ont été taguées. Une plainte a été déposée, des graffitis découverts hier matin, ainsi qu'ailleurs dans le quartier du Marais. Les mains rouges, symbole utilisé par les manifestants se présentant comme pro-palestiniens, notamment à Sciences Po, est mise en cause pour leur connotation, le renvoi à celles ensanglantées de Palestiniens qui avaient lynché des soldats israéliens en l'an 2000. La condamnation également d'Emmanuel Macron par rapport à ces graffitis contre le mur du mémorial des Justes, dégrader le mur des Justes parmi les nations, barrage des Lumières contre le nazisme, c'est porter atteinte à la mémoire de ces héros comme à celle des victimes de la Shoah, a écrit Emmanuel Macron sur X.
Merci beaucoup Eva Soto, Eva qu'on retrouve évidemment tout au long de cette édition sur Radio J, vous le savez, rendez-vous tout à l'heure à partir de 8h sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre chroniqueur Patrick Kanner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat, qui va revenir sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Une personne a été tuée, on l'apprenait ce matin, par balle en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'a annoncé le haut-commissaire de la République en conférence de presse. Il ne s'agit pas d'un policier, mais de quelqu'un qui a voulu se défendre. C'est ce qu'a précisé Louis Lefranc, cité par nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première, qui qualifie la situation d'insurrectionnelle. On en parle avec Patrick Kanner. À tout de suite.
Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité.
Et je suis ravie d'être invitée à Radio J.
Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir.
Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc merci à vous.
À tout à l'heure. Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Shabbat.
menace sur les démocraties. C'est le thème de la conférence de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, organisée par le Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, mercredi 15 mai à 19h30. Menace sur les démocraties, mercredi 15 mai à 19h30 au Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, 11 rue du 8 mai 1945, Saint-Lory-Gozlan.
Acib Créteil.
Acib Créteil. 01 43 77 01 70.
Merci d'être avec nous sur Radio J. On parle effectivement de la situation en Nouvelle-Calédonie. Une personne tuée par balle à Nouméa après une nouvelle nuit d'émeute. Les autorités parlent d'une situation insurrectionnelle. Et pour en parler, nous sommes avec Patrick Kanner, président du groupe socialiste, écologique et républicain au Sénat. Bonjour Patrick.
Bonjour à vous Ilana.
Merci d'être avec nous. Effectivement, une nouvelle nuit d'émeute en Nouvelle-Calédonie. On a entendu notamment Louis Lefranc, le haut commissaire de la République en conférence de presse hier. Est-ce que vous craignez que la situation s'enlise, Patrick ?
C'est une situation qui est extrêmement préoccupante, pour ne pas dire grave aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Naturellement, mon premier mot seront pour condamner ces violences, des exactions sur les biens, sur les personnes, c'est inacceptable, d'où qu'elles viennent, naturellement. Et la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, vit une situation très particulière. Hein. Moi, je le dis avec beaucoup de force. Il est 16h20 maintenant, avec le décalage horaire, donc on a l'occasion de tirer le bilan de ces trois nuits d'émeute. Trois nuits d'émeute et en condamnant ces violences, j'apporte aussi mon soutien aux forces de l'ordre, aux pompiers qui essayent de rétablir l'ordre, d'éteindre les incendies. Mais on a l'impression effectivement qu'on est devant une forme de chaos et que la situation n'est plus sous contrôle parce que Nouméa aujourd'hui est sous le joug de personnes violentes qui ont décidé de créer les conditions d'une véritable insurrection. Donc la priorité est au retour de l'ordre. Mais le retour de l'ordre dans la rue, c'est aussi le retour de l'ordre dans les esprits.
Alors, vous parlez de retour de l'ordre dans les esprits. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'entendez-vous par là ?
Encore une fois, donc, condamner les violences, c'est une chose bien sûr nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et la Calédonie connaît de longue date des tensions. C'est une ancienne colonie de peuplement, il y a 170 ans. Et aujourd'hui, le gouvernement tourne le dos, en fait, à une méthode qui a été utilisée il y a 36 ans par Michel Rocard, puis après par Lionel Jospin, méthode basée sur l'humilité, sur le dialogue, l'impartialité de l'État, et tout faire pour que ce soit d'abord les acteurs locaux, indépendantistes et loyalistes, loyalistes ça veut dire non-indépendantistes, hein, très clairement, qui se mettent d'accord avant de faire bouger les institutions. Et il est vrai qu'il y a une anomalie aujourd'hui, puisque un électeur sur cinq, potentiel, ne peut pas voter aux élections provinciales dans la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a eu des accords qui prévoyaient ce type, non pas d'exclusion, mais en tout cas de mise à l'écart progrès potentiel d'une partie des électeurs pour garder un équilibre au sein de l'électorat néo-calédonien. Alors c'est un peu compliqué, mais le gouvernement a voulu forcer la main, forcer le destin, aller vite, imposer sa méthode, et malheureusement on en tire et on en voit aujourd'hui les conséquences.
Alors Emmanuel Macron, en tout cas de son côté, a appelé au calme dans un courrier adressé aux représentants calédoniens cette nuit. Le président de la République a condamné des violences indignes, je cite. On sait que les écoles ont été fermées également jusqu'à nouvel ordre, selon le Haut Commissariat. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, Patrick Kanner ?
Alors, vous savez, nous avons non seulement des idées, mais nous les avons écrites. Avec Boris Vallaud, mon collègue, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, nous avons écrit le 7 mai au président de la République une lettre pour lui dire il faut changer de braquet. Permettez-moi l'expression. Il faut revenir à la raison, créer une mission du dialogue, ce qui a toujours été le cas en Nouvelle-Calédonie, pour ne pas dire d'ailleurs un trilogue, c'est-à-dire mettre autour de la table l'État, garant de l'impartialité, les indépendantistes et les non-indépendantistes. À partir de là, il faut desserrer l'agenda qui est beaucoup trop rapide de cette réforme et envisager une réforme d'ailleurs constitutionnelle beaucoup plus large que celle qui est prévue et qui se limite au dégel du corps électoral. Et c'est comme ça qu'on pourra retrouver les voix de la région qui aujourd'hui sont dépassées par une passion criminelle. Il faut appeler les choses par leur nom. On regarde ce qu'on peut voir sur les images et avec une tristesse, puisqu'il y a déjà eu la nuit dernière un mort par balle. Je dis bien par balle. Sachez qu'il y a 100 000 armes qui circulent, sans une arme à feu, qui circulent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour l'heure, l'urgence est de suspendre cette réforme, de tenir compte de ce qui se passe malheureusement dans la... Et on ne peut pas s'entêter au niveau du gouvernement et à souffler sur les braises. Donc, c'est ce que je demanderai cet après-midi, solennellement, puisque je pose une question d'actualité au gouvernement et en particulier à Gabriel Attal dans le cadre de cette séance, donc d'intervention pour le gouvernement.
Merci beaucoup Patrick Caner pour ces précisions et on vient de l'apprendre, hein, c'est tombé il y a quelques instants, l'état d'urgence notamment sur l'ensemble du territoire qui a été réclamé. La présidente de la province sud, Sonia Backès, a dans un courrier adressé à Emmanuel Macron demandé de déclarer l'état d'urgence sur le territoire. Des maisons, commerces sont brûlés, pillés, des andes organisées terrorisent la population et mettent en danger la vie des habitants et des forces de l'ordre aux cris d'insultes et de menaces racistes. Je vous demande solennellement, dit-elle, de déclarer l'état d'urgence et de mettre tous les moyens en œuvre pour amener la paix et la sécurité en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Patrick Caner d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis à très bientôt sur cette antenne.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.
Radio J. Et on revient à l'actualité en Israël, bien sûr, avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, ce matin, vous souhaitiez revenir sur cette crise qui monte entre l'Égypte et Israël en cause de l'opération de Tsal à Rafah. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana. Oui, la situation se tend entre le Caire et Jérusalem et c'est l'opération de Tsahal à Rafah qui est au cœur de la crise. Depuis que l'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien du terminal frontalier de Rafah, l'Égypte a fermé son côté du terminal, bloquant du même coup l'entrée de marchandises et de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza qui transite pour une large part via la frontière égyptienne. Et depuis, Israël et l'Égypte se renvoient mutuellement la responsabilité de la situation. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a contacté hier ses homologues britanniques, allemands et italiens pour qu'ils demandent à l'Égypte de rouvrir le poste frontalier et expliquer que ce n'était pas Israël qui était responsable du blocage. Israël déforme les faits, a répondu le ministre égyptien des Affaires étrangères. Samer Choukri accuse en retour Israël d'être à l'origine du blocage, dû, selon lui, à l'escalade injustifiée engagée par Israël, ajoutant que l'Égypte déclinait toute responsabilité sur la crise humanitaire qui pourrait s'en suivre. Il y a 3 semaines, soit une quinzaine de jours avant le lancement de l'opération, le chef d'état-major de Tsahal et le directeur du Shin Bet s'étaient rendus au Caire pour discuter avec leurs homologues égyptiens des plans de Tsahal, expliquer qu'il s'agirait d'une opération ponctuelle et limitée et qu'Israël aviserait l'Égypte à l'avance du lancement de l'opération. Mais les Égyptiens n'ont pas du tout apprécié la diffusion de vidéos prises par des soldats de Tsahal et qui montraient l'organisation à l'intérieur du terminal quand les premières troupes y ont pénétré. Mais au-delà de ce mouvement de mauvaise humeur, se profile une crise plus sérieuse. Selon le Wall Street Journal, l'Égypte étudierait une réduction de ses relations diplomatiques avec Israël, y compris le rappel de son ambassadeur. Depuis le début de l'offensive de Tsahal à Gaza, l'Égypte redoutait que la progression des troupes israéliennes vers le sud ne fasse déborder le conflit sur son territoire. Il faut rappeler que l'Égypte est le seul autre pays à avoir une frontière avec la bande de Gaza, qu'elle avait d'ailleurs occupée jusqu'en 1967. Depuis, l'Égypte a conservé des liens particuliers avec le territoire côtier, liens qu'elle a maintenus même quand les islamistes du Hamas y ont renversé le régime de l'autorité palestinienne en 2007, car il faut rappeler aussi que le Hamas est une branche des frères musulmans qui sont les ennemis jurés du régime du président Abdel Fattah al-Sissi. Israël a eu beau assurer qu'à aucun moment il ne franchirait la frontière égyptienne dans ses combats contre le Hamas, l'Égypte est convaincue qu'en cas d'offensive de grande ampleur à Gaza, à Rafah, le Hamas tentera de s'en prendre à la barrière de sécurité entre le sud de Gaza et l'Égypte pour faire passer des réfugiés palestiniens vers le Sinaï. Et le Caire ne veut surtout pas que ce scénario se réalise et préfère en reporter à l'avance toute la responsabilité sur Israël. L'Égypte escompte maintenant rallier les pays arabes, les pays occidentaux, à commencer d'ailleurs par les États-Unis, pour qu'ils contraignent Israël à stopper son opération à Rafah.
Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure en direct à partir de 8h07 sur Radio J. Ne bougez pas, dans quelques instants on continue à parler de ce qui se passe en Israël, de ce qui se dit notamment dans les quotidiens, sur les sites d'information, à la télévision en Israël avec la revue de la presse. On l'espère, on va retrouver techniquement les studios Qualita dans quelques instants, Daniel Haïk, et puis à suivre bien sûr l'invité de Christophe Barbier à partir de 7h45, ce sera juste après le billet d'humour. L'invité de Christophe ce matin, c'est Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger. Il sera au micro de Christophe Barbier.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 7h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité. Comme tous les jours, ce mercredi 15 mai 2024, 222e jour de guerre contre le Hamas. Et ne les oublions pas, il y a toujours 132 otages dans la bande de Gaza.
Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Et nous retrouvons à Jérusalem Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Bonjour Daniel, Bokertov. Les quotidiens de ce lendemain de fête de l'indépendance nous rappellent la douloureuse et complexe réalité dans laquelle l'État d'Israël évolue cette année, Daniel.
Oui, effectivement, Ilana, j'espère que vous m'entendez.
Est-ce
que
vous m'entendez? On vous entend très bien.
Oh là là.
Alléluia.
Bien, voilà. Alléluia. Voilà, effectivement, une complexité effectivement dont vous parliez, qui se reflète en particulier dans les manchettes des deux principaux quotidiens israéliens, le Israel Hayom et le Yedioth Aharonot. Les combats de l'indépendance titre le Israel Hayom en citant des officiers qui combattent actuellement dans Jebalia au nord de la bande de Gaza, et précise: nous sommes revenus à Jebalia pour des corrections. Et le journal de cité, le porte-parole de Tzal, qui a critiqué les champs politiques de manière voilée hier en déclarant qu'il est certain que l'installation d'un pouvoir alternatif dans la bande de Gaza mettra le Hamas sous pression.
Et le Yediot, lui, parle de fête d'indépendance sous le feu ennemi dans le nord et dans le sud d'Israël.
Oui, en surtitre, le journal nous annonce la mort d'un civil israélien hier dans le nord du pays, d'un tir de missile anti-tank tiré par le Hezbollah. Il parle de combats ardents dans le sud, à Jebalia en particulier. Et on a appris ce matin donc sur les sites d'information la mort d'un soldat israélien. Pour la première fois depuis 1948, Israël est en guerre durant le jour de l'indépendance, annonce le Yedioth Aharonot, qui cite la CNN, qui affirme qu'Israël a déployé actuellement suffisamment de soldats face à Rafah pour lancer une offensive majeure. Et puis l'UNRWA affirme, elle, que ce serait 450 000 Gazaouis qui auraient fui la ville depuis les dernières semaines.
Ce matin, le Israel Hayom, par ailleurs, nous propose un reportage sur le terrain à Jebalia de Netabar.
Oui, et durant ce reportage, Netabar va à la rencontre des officiers qui commandent une partie des forces dans Jebalia, des officiers dont les noms ne sont pas vraiment inconnus du grand public. Le commandant du bataillon est d'ailleurs le lieutenant-colonel Itamar Etam, le fils de l'ancien général et ancien ministre Effi Etam, et son adjoint est le commandant Ethan Fund, qui a reçu à la fin de l'opération Bordure Protectrice il y a 10 ans la médaille de la bravoure pour avoir poursuivi dans les tunnels des terroristes qui avaient tué le lieutenant Hadar Goldin qui avait kidnappé son corps. Le lieutenant-colonel Etam estime qu'il n'y a pas de meilleur moyen de marquer la journée de l'indépendance que de combattre sur le terrain l'ennemi dans la bande de Gaza. Donc le Yedioth Aharonot lui aussi a envoyé son correspondant pour suivre la même unité. Il insiste en particulier sur la personnalité tout à fait hors norme du commandant de la bravoure, Ethan Foun.
Les quotidiens et les sites d'information mentionnent aussi ce matin en évidence la menace égyptienne.
Oui, effectivement, les Égyptiens ne sont pas contents de constater que l'opération israélienne dans Rafah est en train de s'élargir, et ils menacent de réduire le niveau des relations diplomatiques avec Israël si cette opération devait continuer à s'élargir. Les Égyptiens considèrent d'abord que l'opération israélienne complique les négociations en vue de la libération d'otages, des négociations qui, il faut le rappeler, sont au point mort. Mais la panique qui s'est emparée du président Assisi a deux autres causes. D'abord, la fuite en Égypte de milliers de Gazaouis. Le Israel Hayom parle de 100 000 Gazaouis ces derniers jours. Cela représente pour le Caire une réelle menace sécuritaire. Et enfin, troisième point, la poursuite des attaques des Houthis sur le canal de Suez, qui porte atteinte à la circulation de marchandises vitales pour le gouvernement égyptien, donc sur le canal de Suez. Chirit Avidan Cohen appelle dans son analyse ce matin le gouvernement israélien à continuer son opération à Rafah, mais sans renoncer aux relations avec l'Égypte.
Le Maariv fait mention de son côté dans sa page d'ouverture d'une information qui pourrait être importante si elle se confirme, en tout cas.
Oui, en effet, selon le Wall Street Journal, l'administration Biden aurait annoncé au Congrès sa décision de promouvoir un nouveau marché d'armes avec Israël pour un montant de plus d'un milliard de dollars. Et cela pourrait marquer un changement par rapport à la décision américaine de geler l'acheminement de bombes lourdes annoncée ces derniers jours. Cette annonce serait mue par une volonté de l'administration Biden de ne pas approfondir la crise ouverte entre les deux pays.
Et puis le Israël Hayom se fait l'écho d'une interview intéressante d'Avigdor Lieberman.
Oui, l'ancien ministre de la Défense et leader du parti Israël Beitenu, un parti qui d'ailleurs se renforce considérablement dans les derniers sondages, a fourni plusieurs titres importants dans un podcast qu'il a réalisé avec un journaliste israélien. Selon lui, l'autorité palestinienne ne peut pas être une alternative au pouvoir du Hamas car elle est trop faible. Seconde déclaration au choc d'Avigdor Lieberman, de son trou, Irié Sinoir est en train de mieux mener la guerre que Benjamin Netanyahou. Et Avigdor Lieberman déplore par ailleurs que le gouvernement actuel ne planifie rien et n'est aucun horizon pour l'après-Gaza. En revenant sur le 7 octobre, il confirme que l'échelon militaire a méprisé les mises en garde des fameuses guetteuses, les soldats chargés d'alerter sur toute approche de Palestiniens le long de la barrière de sécurité.
Les sites d'information comme celui du Maariv reviennent par ailleurs sur les célébrations du jour de l'indépendance.
Oui, le Maariv en particulier se penche sur l'absence de Benjamin Netanyahou lors des principales cérémonies de ces festivités. Le Premier ministre était absent du concours biblique, de la réception à la présidence de l'État des soldats méritants et de la cérémonie de remise des prix d'Israël, une absence qui a fait grincer des dents. Et dans le Maariv, l'entourage du Premier ministre publie une forme d'explication. Durant ces festivités, le Premier ministre a choisi de passer la journée avec des soldats blessés dans Tzahal.
Il faut revenir justement sur l'un des points d'orgue de cette journée, pas tout à fait comme les autres.
Oui, il s'agit du discours prononcé hier soir par Menachem Kalmanzon, qui a reçu le prix d'Israël pour sa bravoure au combat le 7 octobre. Ce jour-là, Menachem et Elchanan Kalmanzon, les deux fils du Rosh Yeshiva, de la Yeshiva d'Otniel, une localité du sud de la Judée, ont entendu que le Hamas avait pénétré en Israël. Sans hésiter, ils ont pris leurs armes, revêtu leur uniforme et sont descendus dans le Sid avec leur neveu Itiel. Ils sont arrivés relativement vite à Be'eri et ont combattu les terroristes qui étaient sur place avec bravoure, sauvant plus d'une centaine d'habitants du kibbutz. Malheureusement, au cours d'une fusillade, Elchanan Kalmanzon a été tué. Hier, donc, son frère et sa veuve ont reçu le prix d'Israël pour leur bravoure.
Et puis, rapidement, on s'intéresse à ce qu'a dit Menachem Kalmanzon dans ce discours si marquant que des extraits figurent à la une du Yediot Aharonot ce matin.
Oui, un discours particulièrement émouvant. Menachem Kalmanzon a déclaré « En descendant vers la zone de combat, nous ne nous sommes pas demandé pourquoi nous faisons cela, car c'était clair que nous devions voler au secours de nos frères en danger. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison de la famille Meir à Be'eri, devant leur chambre blindée, Michal Meir n'a pas voulu m'ouvrir de crainte que je sois un terroriste. Elle m'a crié « Parle en ivrite !» et elle ne m'a ouvert la porte pas avant que je lui crie « Shema Israël », l'antique prière du peuple juif. Ce n'était pas cette fois une prière, c'était un cri de ralliement. Je suis juif, je suis là pour toi. Et ce schéma Israël a retenti dans les kibboutzim du pourtour de la bande de Gaza ce jour-là. On m'a demandé pourquoi êtes-vous allé combattre? Vous êtes des habitants juifs des implantations et eux, ce sont des membres des kibboutzim. Et Elchanan l'a fait parce qu'il savait que nous sommes un seul et même peuple, s'inspirant du verset de Joseph qui dit « Je pars à la recherche de mes frères ».
Merci Daniel, à demain.
Direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
Keren-Hayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons.
Radio-G.
Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider, à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr/urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité de la francophonie et des Français de l'étranger. Bonjour messieurs.
Bonjour Ilana.
Et
bonjour.
Merci d'être avec nous. Mais sans plus tarder, elle est là le mercredi matin, toutes les semaines, Nina Azoulay. Bonjour Nina.
Bonjour. Quand on commence par « elle est là », c'est souvent bon signe. Enfin bon, on verra, on va voir. Bon, bah écoutez, je suis contente d'être là, mais ça y est, c'est le bordel dans Paris depuis lundi, là. Ouais. Alors que tout le monde était parti. La semaine dernière, tout le monde avait quitté Paris, il n'y avait personne. Vraiment, tout le monde a quitté Paris. Même Kylian Mbappé, d'ailleurs.
Pour le pont de l'Ascension.
Ma vanne, elle est tombée à l'eau. Enfin, je me suis dit, de toute façon, c'est peut-être un peu tôt pour les fans du PSG, donc c'est pas très grave. Mais c'était un bonheur la semaine dernière. Par contre, c'était paisible. En plus, il y a eu un début d'été, donc on était bien. Bon, après, très vite, on a retrouvé un milieu d'hiver, si on était bien. Là, apparemment, les températures vont baisser. Il y a un refroidissement à cause du phénomène la Niña.
Ouais. C'est pas la Niño, c'est la Niña.
Non, c'est la Niña.
D'accord.
Je dis comme par hasard, ça s'appelle la Niña. Genre, moi, je peux chauffer personne. Même dans le domaine météorologique, je refroidis tout le monde. C'est une catastrophe. Et je me suis toujours demandé qui donne des noms aux phénomènes météorologiques. Genre, il y a vraiment un gars dont c'est le métier de leur trouver des noms. Comme celui qui trouve des noms aux tueurs en série. Parfois, il y a des trucs, c'est quand même hallucinant. C'est un vrai marketing. Nous, on est là, à chaque fois, avant de dormir, on regarde les documentaires. On est là, chérie, tu préfères regarder Patrick, l'ingénieur tueur, ou Sophie, la tueuse en Birkenstock? Il y a des noms, maintenant, c'est... Donc, je me suis renseignée pour les phénomènes météorologiques. En fait, ils donnent des prénoms pour qu'on retienne et qu'on identifie plus facilement les...
Oui,
voilà,
c'est ça.
On soit alerté,
c'est souvent
quoi.
Des noms de femmes.
C'est souvent des noms de femmes, c'est une bonne, ouais, ouais. Effectivement. Comme les tueurs en série, les femmes n'ont pas beaucoup leur place, je trouve ça assez injuste. Bon, peu importe. Alors, mais je me suis dit quand même, c'est important de choisir le prénom parce que je suis sûre que le prénom a une influence sur le phénomène.
D'accord.
Par exemple, si tu appelles le phénomène Emmanuel, au hasard, et ben je suis sûre que c'est un phénomène qui peut te refroidir et en même temps te réchauffer. Si tu l'appelles Marine, c'est un vent très fort qui touche uniquement les Arabes, mais ce vent est tellement fort qu'il les pousse jusqu'au Maghreb. C'est assez fou. Et enfin, tu peux l'appeler Jean-Luc. Jean-Luc, mais là, c'est dangereux, parce que c'est un incendie qui paraît pas forcément méchant, mais en fait, ça brûle petit à petit le pays. Donc, faut faire très attention. Mais on donne des noms à tout maintenant, en vrai. C'est comme les fans de Justin Bieber.
Ouais.
Ça s'appelle les Beliebers.
Ouais, les Beliebers, c'est vrai. Ouais.
Vous en êtes une?
Non, pas du tout.
D'accord. Il y a les fans de Taylor Swift aussi, les Swifties.
Ah, je connais pas ça.
Ah, les Swifties, si.
On a entendu parler. Christophe a l'air d'être fan.
Il était au concert. Aussi, hein. Ouais, c'est
vrai. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que ça marche avec Bieber ou Swift. Ça marche avec des noms américains un peu stylés. Mais tu prends un nom bien fudge, c'est Farad. C'est quand même un peu plus chelou. Imagine, t'as les Chiche Porti Cheese. C'est un peu moins de gueule, quand même. On dirait le nom qu'un vieil oncle aurait donné au groupe WhatsApp de famille. En tout cas, on a entendu, voilà, parler de Justin Bieber aussi la semaine dernière.
Oui.
Puisqu'il est devenu, enfin, il va devenir papa.
Tout à fait.
Il a brisé le cœur de millions de jeunes filles. Y compris moi, en tant qu'ancienne Belieber. En fait, j'ai l'impression, je suis plus amoureuse, hein. Mais j'ai l'impression que c'est comme si mon ex, avec qui je suis restée 5 ans, devenait papa. C'est-à-dire que je suis contente pour lui, mais je veux pas en entendre parler. Oui, ou pas. Pareil, bah, Taylor Swift, c'est surtout Taylor Swift dont on a entendu parler la semaine dernière, parce qu'elle a donné des concerts à Paris. 4 dates, 200 000 personnes. Je me dis peut-être que les gens sont même pas partis en vacances la semaine dernière, ils étaient tous au concert de Taylor Swift, en fait. Alors, la tournée est censée rapporter 2 milliards d'euros. Parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, ils achètent places de concert, transport, hôtel, merchandising et tout. Et en moyenne, les fans de Taylor Swift dépensent 1100 euros par concert. Pas de soucis, hein, si c'est leur kiff, mais où sont passés les gens qui répètent toute la journée qu'ils n'ont pas d'argent? Non, mais quand même, c'est vrai d'où ils le trouvent cet argent? Ils sont là toute la journée, on n'a plus d'argent, et d'un coup, tout le monde est riche, on comprend pas. C'est comme ceux qui te disent qu'ils n'ont plus d'argent pour participer à la cagnotte d'anniversaire, mais ils ont un sac dur à la main. Bon, j'ai plein de copines comme ça, c'est insupportable. Apparemment, le concert de Taylor Swift a un réel impact sur l'économie. Voilà, ça fait profiter les hôtels, les restos. Je me dis, mais pourquoi on se démène à organiser les JO? Venez, on fait des concerts de Taylor Swift toute l'année. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Les fans kiffent le concert, Hidalgo s'enrichit, et nous, on peut circuler dans Paris. Franchement, voilà. Attendez, je crois que je dois vous laisser, parce que mon père a... Ouais. Il a créé un groupe WhatsApp de famille qui s'appelle les Azuliers et j'ai très peur que j'allais m'occuper de ça.
Ça sonne bien.
Donc, je suis pas sûre, je vais régler ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté.
Eh bien, merci à vous, Nina Azoulay, qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J, effectivement. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger.
Les grands débats commencent sur Radio J. Sur Radio J.
Yester, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, l'actualité est tragique. Et là, cette nuit, un mort en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il faut, comme le réclame Sonia Backès, la présidente de la région Sud, déclarer l'état d'urgence?
Écoutez, moi, Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, est en charge, évidemment, du retour au calme et à l'ordre. Et je lui fais toute confiance pour prendre les dispositions qui s'imposent en fonction de la situation. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un couvre-feu le soir et que, en ce qui concerne la mobilisation des forces de l'ordre, de police, de gendarmerie, elle est totale, et la mobilisation donc de l'État est totale. On ne peut pas accepter cette situation qui est intolérable. Le président de la République, d'ailleurs, cette nuit s'est exprimé suite au vote à l'Assemblée nationale, vous le savez,
tout à fait,
du projet de loi constitutionnelle d'élargissement du corps électoral.
Le corps électoral avait été gelé en 2007 en prévision des 3 référendums. Ils se sont tenus. Le rattachement à la France a été proclamé 3 fois. On réélargit le corps électoral à de nouveaux électeurs.
Voilà, dans le cadre, évidemment, du respect de la démocratie. Le président de la République a dit qu'il ne réunirait pas le Congrès. Vous savez qu'il y a eu un vote au Sénat, un vote à l'Assemblée, donc on pourrait réunir le Congrès pour entériner cette réforme constitutionnelle.
Pas avant la fin juin, a-t-il dit.
Pour laisser le temps, encore une fois, au dialogue, au débat, aux négociations entre loyalistes et indépendantistes, pour peut-être avoir un projet plus large, plus ambitieux d'une certaine façon, sur les réformes institutionnelles pour la Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est un signal à la fois de volonté de rétablir l'ordre en Nouvelle-Calédonie et en même temps de main ouverte au dialogue et à la discussion pour permettre de sortir par le haut de cette situation.
Il faudrait quasiment de nouveaux accords de Matignon.
Écoutez, les noms, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que suite à ce troisième référendum d'autodétermination, la place a été faite au dialogue et à la négociation pour pouvoir permettre d'aller plus loin dans la réforme institutionnelle, avoir finalement des institutions nouvelles pour la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas eu suffisamment pour l'instant d'accord. Là, il y a une belle opportunité à se saisir de ce vote du Parlement français pour aller plus loin et trouver les voies qui permettront à la Nouvelle-Calédonie, dans la République, de s'inscrire dans l'avenir.
L'autre actualité tragique, c'est l'évasion de Mohamed Amra avec 2 morts, 2 gardiens, 2 membres de l'administration pénitentiaire tués. Tout le monde a vu les images d'une violence inouïe. Qu'est-ce que ça signifie sur notre société?
Je sais pas, sur la société, c'est le monde entier où, du fait du trafic de drogue, il y a une violence exacerbée, avec des pratiques qui sont évidemment terribles, horribles, qui nous ont tous marqués. On a tous été frappés. Moi, il se trouve que j'étais en visite à Val-de-Reuil pour visiter une entreprise américaine qui investit dans des nouvelles chaînes de production.
Vous étiez tout près, donc.
J'étais tout près, et je peux vous dire que tout le monde a été sidéré. Et les Français entiers, dans leur intégralité, ont été sidérés par ce qui s'est passé. Il y a une mobilisation totale de l'État pour retrouver et sanctionner évidemment celui qui s'est évadé et ses complices. Évidemment, nous sommes aussi tous avec les victimes, avec leurs familles et avec tous les agents pénitentiaires qui font un travail remarquable, difficile, et avec qui nous sommes en totale solidarité aujourd'hui.
Ils sont en colère aujourd'hui, ces personnels. Ils veulent fermer les prisons, ils veulent faire la grève, on les comprend. Ils veulent plus d'armement. Est-ce que c'est la réponse? Des armes de guerre face à des armes de guerre?
Écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient protégés, et ils le sont. S'il y a besoin d'aller plus loin, évidemment, le gouvernement est à l'écoute. Le garde des Sceaux recevra d'ailleurs les représentants des organisations syndicales tout à l'heure. Il y aura une minute de silence à 11h dans tous les établissements pénitentiaires. Nous sommes mobilisés, solidaires avec eux, et s'il y a besoin, ici ou là, d'aller plus loin dans la sécurité des personnels, bien évidemment, il faut le faire.
Le reste de votre semaine, heureusement, était beaucoup plus positive. On aurait dû commencer par cela d'ailleurs ce matin s'il n'y avait pas eu ces tragédies. Choose France, le sommet de l'attractivité française, s'est tenu. 56 projets, 15 milliards, je ne me trompe pas.
C'est ça.
Combien d'emplois?
10 000.
Garanti, sûr et durable. Ah,
écoutez, ça après, on suit évidemment les engagements, voir si les engagements sont tenus. Mais en tout cas, ce sont les prévisions faites par les entreprises de création directe d'emplois. Quand vous créez une usine, vous recrutez 50 personnes, mais il y a aussi les emplois qui sont créés par les entreprises qui construisent l'usine, qui construisent les machines qui vont dans l'usine quand ce sont des machines françaises. Parfois, c'est des machines qui viennent de l'étranger, on le sait. Mais enfin, en tout cas, ça peut être des machines françaises. Et puis aussi, toutes les entreprises qui ensuite vont travailler à la maintenance, à l'entretien, à fournir tel ou tel matériel à l'entreprise et à l'usine pour qu'elle tourne. Donc, c'est 10 000 emplois directs, mais c'est une dynamique économique et territoriale importante derrière. Et ça fait suite à l'annonce, il y a quelques jours, précédant Choose France, des résultats 2023 de l'attractivité du pays. Et c'est une nouvelle fois la France, c'est ce baromètre Ernst & Young, EY, qui dit qu'elle est à nouveau la France championne d'Europe en matière d'attractivité pour les investissements étrangers. C'est-à-dire que pour la cinquième année consécutive, la France a accueilli plus d'investissements étrangers que la Grande-Bretagne, que l'Allemagne. Et je vais vous donner un chiffre particulièrement saisissant. Les investisseurs étrangers en 2023 ont investi 6 fois plus en France dans des usines qu'en Allemagne, 3 fois plus qu'en Grande-Bretagne. Ce qui montre que la réindustrialisation du pays, que le président de la République a appelé de ses voeux, que le gouvernement met en œuvre par une politique de l'offre. Vous savez, cette politique qui vise à améliorer l'environnement des affaires, à baisser la fiscalité des entreprises, à réformer le marché du travail, à miser sur la recherche et l'innovation, à faire en sorte que il y ait davantage de formations dédiées aux besoins des entreprises en matière de qualification. Cette politique-là, elle fonctionne. Elle a des résultats. Parce que ces résultats de la France championne du monde des investissements étrangers, c'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une politique. Alors, c'est le fruit aussi de choix qui avaient été faits aussi auparavant pour les infrastructures, c'est le transport, c'est aussi l'accès à une énergie décarbonée à bas coût. C'est ce que nous disent tous les investisseurs. Et cette politique, il faut la poursuivre, continuer d'investir dans les infrastructures de transport, continuer d'investir dans une énergie électrique décarbonée et pas chère, le nucléaire et les énergies renouvelables.
Une partie de l'opposition à gauche réclame de remettre à plat tout le système d'aide. Cette opposition considère que les aides sont trop généreuses et que pour de l'argent donné à des entreprises qui créent vraiment des emplois, il y a beaucoup d'effets d'aubaine.
Oui, mais vous savez, si on commence à être dans la comptabilisation de l'emploi à l'emploi, on bloque le système et finalement on casse la dynamique de la croissance. Comme je vous le disais, la création d'emplois, elle n'est pas figée. C'est les emplois directs, mais c'est aussi les emplois indirects. Ce que comprennent pas souvent les élus de gauche, c'est que l'économie, c'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose d'arithmétique, c'est quelque chose de dynamique. C'est pour ça que les 35 heures étaient une énorme erreur, l'idée de penser qu'on pouvait partager le travail. Non, l'économie, c'est quelque chose de dynamique. Plus c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Et un cercle vertueux, pour qu'un cercle soit vertueux, il faut que les entreprises aient confiance, qu'on leur fasse confiance et qu'on leur dise oui, on sait que la question du coût de travail est important dans la compétitivité du pays. Et pour que le coût de travail soit le plus bas possible, il faut aussi des aides pour permettre de continuer à financer notre protection sociale, mais en même temps vous donner les moyens de vous battre à armes égales avec la compétition du monde entier.
Ce cercle vertueux de la croissance, il peut suffire, comme le croit le président de la République, à régler nos problèmes de compte public, de déficit, de dette, ou est-ce qu'il ne faudra pas, à un moment donné, serrer la vis sur le social et les dépenses, et puis peut-être augmenter la fiscalité des personnes? Non,
qu'il y ait des réformes pour que, par exemple, on ait un volume de travail plus important. On a fait, vous savez, la réforme sur les heures supplémentaires, sur l'assurance chômage, sur les retraites. C'est pour qu'il y ait un volume de travail plus important. Et ça, oui, c'est important, il faut le faire, il faut continuer. Et s'il faut aller plus loin, et nous pensons qu'il faut aller plus loin avec, vous savez, une réforme du travail, du marché du travail, je dirais numéro 2 après ce qu'on avait fait en 2017 qui est en préparation, il y a l'aller plus loin sur la réforme de l'assurance chômage. Il faut continuer de faire en sorte que dans notre pays il y ait un volume de production de travail plus important. Et puis il faut continuer à avoir l'environnement des affaires le plus favorable en simplifiant. Et là, c'est le gros chantier qui est devant nous. On n'a pas fait suffisamment, on le reconnaît bien volontiers. Il faut qu'on aille plus loin. Il y a un projet de loi qui est en préparation. Il y a des propositions de loi, c'est-à-dire d'origine parlementaire, qui sont d'ores et déjà en discussion, notamment la proposition de loi Holroyd pour simplifier la partie des services financiers pour que l'attractivité de la France et notamment de Paris soit encore plus importante en matière financière. Il faut continuer de faciliter la vie des entreprises. À mon niveau, en tant que ministre du commerce extérieur, je travaille à un plan de simplification export. Ça soit plus facile d'exporter. Et notamment avec la dématérialisation, la digitalisation des démarches. Donc tout ça, c'est notre priorité. Mais il faut surtout pas remettre en cause les fondamentaux qui sont reconnus par les entreprises aujourd'hui et les investisseurs étrangers pour choisir la France, de l'électricité à bas coût décarboné, un coût du travail maîtrisé, un soutien à la recherche et à l'innovation, et des talents qui sont soutenus et valorisés.
Alors, le déficit du commerce extérieur reste quand même impressionnant dans notre pays. Il y a le poste énergétique, et puis on a appris que la moitié quasiment de ce déficit, c'est nos échanges avec la Chine. Est-ce qu'il faut faire comme M. Biden avec les véhicules électriques, taxer beaucoup plus les produits chinois ?
Il faut qu'effectivement, on continue et accélère ce qu'a voulu le président de la République dans son discours de la Sorbonne 1, et qu'on a commencé à mettre en œuvre en Europe, c'est la fin de l'Europe naïve en matière commerciale. C'est de bâtir un vrai bouclier commercial.
Au niveau européen.
Au niveau européen.
C'est un peu protectionniste, faut dire le mot.
C'est de la protection. Parce que le protectionnisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gèle tout échange. Non, on veut pas geler tout échange. On veut continuer à échanger. On a besoin d'exporter. 30% de, par exemple, des exportations sont liées aux investissements étrangers dans notre pays. Si demain on ferme les portes et de nos frontières, les investisseurs étrangers viendront plus en France ou viendront plus en Europe.
Donc faut être malin, souple.
Il faut être malin. Mais il faut continuer d'aller chercher l'ouverture des marchés, parfois en ayant des accords commerciaux pertinents, utiles pour le pays. C'est par exemple l'accord avec le Canada. Et puis des fois, il faut se protéger davantage. Et c'est pour ça que nous avons soutenu et mis en œuvre un certain nombre d'instruments au niveau européen, notamment sous présidence française, pour mieux se protéger. Pour par exemple, davantage de réciprocité dans l'ouverture des marchés publics, pour davantage de concurrence loyale, notamment pour les véhicules électriques. Vous savez qu'il y a une enquête actuellement en cours au niveau de la Commission européenne pour voir si les subventions chinoises sont bien réelles. On pense que oui. Et dans quel cas, quelle réaction? Et la réaction, évidemment, qui tombe sous le sens, c'est d'augmenter les tarifs douaniers pour rééquilibrer la concurrence avec la production européenne.
Vous citiez l'accord CETA avec le Canada. Il ne devait pas venir au vote avant les européennes, mais les communistes vont profiter de leur niche parlementaire. Est-ce que ça sera rejeté, comme ça l'a été au Sénat par la droite?
Non, alors, ils profitent de leur niche parlementaire pour débattre d'une proposition de résolution, donc avec aucun impact sur le processus de ratification de l'accord. Pour l'occasion pour moi de réitérer que bien sûr le texte de ratification reviendra à l'Assemblée nationale. Il est déjà venu à l'Assemblée nationale en 2019, il avait été voté d'ailleurs à l'Assemblée nationale, il est allé au Sénat où il a été battu par une alliance contre nature électoraliste entre les communistes et les socialistes et les LR qui pourtant avaient négocié et conclu cet accord. On comprend que et le Parti socialiste et les LR ont perdu complètement leur boussole de politique économique et ça reviendra à l'Assemblée nationale le moment venu c'est quand? C'est pas dans une période électorale pour pas que ça soit instrumentalisé à des fins électoralistes, et quand on aura un bilan provisoire fait par la commission qui sera rendu d'ici à la fin 2024, et quand la mission parlementaire voulue par le Premier ministre sur les mesures miroirs, vous savez, c'est ces mesures qui permettent la réciprocité dans les normes de production d'être rendue, là aussi d'ici fin 2024, début 2025.
En un mot, est-ce qu'on parlera français aux Jeux Olympiques de Paris? Est-ce que vous êtes le garant de la francophonie?
Oui, et c'est un engagement très fort, et notamment il y aura une traduction pour tous les résultats de toutes les disciplines pendant les JO. C'est une première fois où on va garantir la langue française partout pendant les JO, y compris pour les résultats.
Franck Riester, merci et bonne journée.
Bonne journée.
Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera demain à 7h45. Votre invité sera le député Renaissance des Yvelines, Charles Rodwell.
Radio J, retrouvez le barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À tout à l'heure.
Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org. MDA-France.org. Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël ? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8
et sur radioj.fr.
Radio J. Menace sur les démocraties. C'est le thème de la conférence de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, organisée par le Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, mercredi 15 mai à 19h30. Menace sur les démocraties. Mercredi 15 mai à 19h30 au Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, 11 rue du 8 mai 1945, Saint-Lanry-Gozlan.
Assib Créteil.
Assib Créteil. 01 43 77 01 70. Ça,
ça,
c'est uniquement sur Radio J.
Uniquement sur Radio J.
Radio J.
Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour.
Bonjour Serge.
Bonjour Manuel Valls.
Bonjour.
Gilles William Gwenadel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, c'est...